This is Radio Free Europe.
9 minutos en Colombia.
محليا من راديو روزانا في باريس.
مادونا هاتو جلوبال.
From CNN Radio 7.
من راديو داتشا.
البرازيل كاس دي كينجا.
تركيا فوتورا. سلاما روسيا.
Rebonsoir et bienvenue un jour dans le monde aujourd'hui au Mali avec David Bachet, au Mexique avec Eric Valmire, au Festival de la Plume Noire avec Dominique André, retour à Hong Kong tout à l'heure, 18h55 dans l'édito d'Alain Frachon, et tout de suite, comme une traînée de poudre blanche, la face sombre de la mondialisation.
France Inter, un jour dans le monde. Nicolas Demorand.
La poudre blanche, c'est la cocaïne. Cet or blanc est avec le pétrole, l'or noir, un autre carburant de l'économie mondiale et sans aucun doute l'investissement le plus rentable qu'on puisse imaginer. Même si les chiffres sont par définition difficiles à établir, ce marché pèserait autour de plusieurs centaines de milliards de dollars par an, des masses d'argent sales, blanchies dans l'économie régulière et propre sur elle. Voilà, en quelques mots nécessairement réducteurs, de quoi parle le dernier livre de Roberto Saviano, notre invité ce soir, que je salue. Bonsoir. Merci d'être ici à France Inter avec nous. Traduction simultanée de vos propos assurés par Christine Favard, que je salue. Un mot du contexte, Roberto Saviano. Tout le monde le sait, vous êtes sous protection policière depuis 8 ans, depuis votre livre Gomorra. Nous avons dû garder secrète l'information sur votre venue ici à France Inter. Nous l'avons tenue secrète jusqu'à ce matin. Vous êtes toujours menacé de mort ?
C'est difficile de répondre à cette
question. C'est difficile de répondre à votre question.
Et disons que je continue à vivre sous protection.
Écoutez, je vis sous protection encore à l'heure où je vous parle.
Le 10 novembre, si chiude il processo.
Le 10 novembre, le procès se conclura.
Contre i due boss accusati di avermi minacciato.
Contre ces deux boss qui sont accusés de m'avoir non seulement menacé, mais également condamné.
Bidognetti e Iovine.
Il s'agit de Bidognetti e Iovine, voilà pour les noms de ces personnages.
Accusati di avermi minacciato non per via segreta.
Effectivement, de ne pas m'avoir accusé. Accusés de façon secrète, les accusations sont effectivement écrites, un document qui a été lu pendant le procès.
C'est tout paradoxal à la vie.
Voilà, et ça, donc c'est le paradoxe de ma vie.
Ouais, les paradoxes de votre vie, vous le dites avec pudeur. Donc, pour le dire avec moins de pudeur, les deux hommes qui ont mis un contrat sur votre tête passent au tribunal dans quelques jours. C'est bien cela?
Si.
Oui, c'est tout à fait ça. Ils seront jugés. Ils seront jugés, naturellement, dans quelques jours. Accusation, menace à mon endroit, et pas uniquement d'ailleurs.
Mais colui qui est responsable. Delle loro eventuali condanne ai processi di mafia.
Si vous voulez, il y a véritablement une responsabilisation en termes de condamnation pour acte mafieux. En d'autres termes, on m'a dit que j'avais inventé de toutes pièces l'existence d'une organisation criminelle alors que eux sont de simples chefs d'entreprise.
Ils s'ammassano tra di loro.
Et donc ils s'entretuent tout simplement parce que ça fait partie d'une sous-culture. Mais la mafia n'a rien à voir dans tout cela. Voilà, donc ça c'est finalement le raisonnement, leur vision.
Et pour cette raison,
c'est donc
loro hanno creduto di potermi
cette raison qu'ils ont pensé justement mettre ce contrat sur ma tête, m'intimider.
J'avrais trouvé la force pour parler au monde.
Sincèrement, je pense qu'ils n'avaient jamais cru que j'allais trouver des ressorts et une force en moi pour m'exprimer au monde. Et je vous avoue franchement que je ne pensais pas moi-même y parvenir. Croyez qu'il y a déjà 8 ans, il m'aurait véritablement écrasé, jugulé véritablement mon envie de parler.
Vous vivez avec la peur en permanence ou avec la colère aujourd'hui ?
Con la paura di continuare a vivere così ?
La peur de vivre ainsi.
Ma non ho paura di morire.
Oui, j'ai peur de continuer de vivre ainsi, mais je n'ai pas peur de mourir.
Ma non ho paura di morire perché sono
téméraire. Je n'ai pas peur de mourir. Vous savez, je suis quelqu'un de téméraire.
Ma perché ho letto della mia morte mais également tanti
parce que, vous savez, j'ai lu tellement de fois que j'allais mourir. J'ai lu tellement de documents qui parlaient de ma mort que j'ai l'impression que ça ne m'appartient plus.
J'imagine que vous y avez pensé, Roberto Saviano, à ce que vous alliez dire à ce procès. La situation est quand même rare de se retrouver face à deux personnes qui ont mis un contrat sur votre tête. Qu'allez-vous dire au tribunal ?
In realtà io ho già testimoniato.
Alors j'ai déjà apporté un témoignage. Le 10, comme je vous l'ai dit, il y aura la décision du tribunal. Alors je les ai toujours regardés en face, droit dans les yeux.
Loro e i loro avvocati.
Tant eux que leurs défenseurs.
Loro erano in videoconferenza.
Alors eux étaient en visioconférence. Leurs avocats étaient présents à la barre.
Cercavano di processare me.
Alors ils ont essayé véritablement de faire mon procès, de me juger.
Quello che io ho detto e quello che io ripeto.
Et ce que j'ai dit,
et
je continue de le répéter, rien ne m'arrêtera de poursuivre mon récit, de raconter les choses. Et je suis conscient que le danger de mon travail, ce ne sont pas mes mots. Le danger de mon travail, finalement, ce sont mes lecteurs, quelque part. Mes lecteurs qui... finalement, si vous voulez, ça s'inverse et ça fait boule de neige en même temps parce qu'ils ont peur de mes lecteurs. Parce que, vous savez, ils font pression sur la politique, ils font pression sur la presse, les médias, au sens large.
Et
vous savez, ce jour-là, j'étais triste, j'étais mélancolique parce que dans la salle d'audience, tous leurs proches étaient là. La presse était présente, la presse locale, nombreuse. Et chez moi, de mon côté, très peu de personnes étaient là. Mais je leur ai montré, et je pense avoir véritablement prouvé, de ne pas courber les chines.
Vous aggravez votre cas, si j'ose dire, avec ce livre dont on va parler maintenant, qui s'intitule « Extra pur, voyage dans l'économie de la cocaïne », publié chez Gallimard. C'est un mélange d'enquête et de roman policier, c'est en tout cas comme ça que je l'ai lu. Première question, pourquoi avoir centré votre travail aujourd'hui sur ce sujet-là, sur cette drogue-là, sur la cocaïne ?
Je l'ai fait parce que
si
l'on tire le fil de la cocaïne, eh bien on arrive véritablement à démêler, si vous voulez, l'entrelacs et l'enchevêtrement du capitalisme contemporain. La masse d'argent, la masse de violence, de férocité qui imprègne la cocaïne est absolument incroyable. Je suis persuadée que quiconque s'oppose aux histoires que j'ai racontées va me dire « c'est un mythomane, ce n'est pas possible ».
C'est du roman, oui.
Oui, c'est ça.
Io voglio che lui
et
non
moi,
mi creda.
Je veux que cette personne qui s'insurge ne me croie pas.
Così
je veux qu'elle ne me croie pas parce que cela, finalement, va être un ressort qui va lui permettre d'essayer de trouver
et
la confirmation. Et lorsqu'il trouvera les premières preuves, eh bien là,
la sua quotidianità.
Probablement que son quotidien changera.
Vous décrivez, Roberto Saviano, une économie monde, c'est-à-dire que la cocaïne, comme beaucoup de choses, comme presque tout aujourd'hui, est mondialisé, globalisé. Mais pourtant, quels sont les centres névralgiques qu'il faut regarder ? Quels sont les lieux importants de cette économie-là ?
Ah, in realtà, la coca continua
à dire, vous savez, la cocaïne reste produite, est produite essentiellement en Amérique latine. Donc le marché est américain. Au nord, nous avons évidemment les États-Unis et l'Europe. L'Espagne est le premier importateur de cocaïne en Europe. La France arrive juste derrière. Et la France ne le sait pas d'ailleurs, ça c'est une parenthèse.
On va l'ouvrir cette parenthèse, mais continuez.
Les grandi capitali del consumo,
les lieux, les grandes capitales de la consommation ne sont naturellement pas les capitales de la consommation.
Londres
est la capitale européenne où se consomment les plus grandes quantités de cocaïne. Milan en fait également partie. Mais le producteur et distributeur, dois-je ajouter, producteur parce qu'il possède les plus les plantations, mais il distribue, donc il est puissant, ce sont les cartels mexicains.
Et si vous voulez,
la plaque tournante, c'est l'Afrique équatoriale occidentale. C'est par là que la cocaïne arrive en Europe.
Et il n'y a pas de raison, Roberto Saviano, qu'il y ait une exception française. Pourtant, à vous entendre et à vous lire, on se dit que la France, miraculeusement, est épargnée par les choses. Alors, dites-nous précisément ce qu'il en est en France de ce trafic de cocaïne et quelle est la place de la France dans l'économie monde de la poudre blanche.
Alors, quand je me suis penché sur le trafic de drogue en France, je l'ai fait parce que finalement, après Gomorra, vous savez que la France a été une terre d'accueil. Je suis d'ailleurs citoyen parisien. Donc, si vous voulez, j'ai pu étudier à Paris, j'ai pu me déplacer librement en France. Ce qui m'a surpris, c'est finalement l'attitude de déni du gouvernement français. Le gouvernement français qui nie la présence de la mafia. On parle de gangsters, on parle de groupes maghrébins, on parle de groupes terroristes, mais on n'utilise jamais le mot mafia française.
Il y a une mafia française, d'après vous?
Certo, la mafia corse.
Bien entendu, la mafia corse en est une.
La mafia corse est potentissime.
La mafia corse a une puissance qui est sous-évaluée et qui est extrême.
Lavori importanti sono stati fatti dalla polizia francese.
Alors, c'est vrai que la police française a œuvré pour essayer de contrer la mafia corse, mais finalement, c'est marginalisé. Ce n'est pas un sujet politique, ce n'est pas un débat politique.
La mafia corse, in questo momento, è cruciale.
La mafia corse, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, est essentielle. C'est elle qui gère le trafic entre l'Afrique francophone et la France. Il suffit de penser que les chefs de l'organisation de Brise Marine, là on est dans le nord de la Corse, et ils gèrent les casinos en Afrique. Et ils ont des liens très ténus avec l'Andrangheta calabraise. Et en quelque sorte, leur rôle est à ce point central et focal que je n'arrive pas à comprendre pourquoi il n'y a pas une bataille politique ouverte en France sur le sujet. Et je voudrais ajouter, véritablement pour confirmer ce que je vous dis, c'est que le Premier ministre français, il y a quelques jours, a prononcé le mot mafia. Et sincèrement, je pense que c'est la première fois dans l'histoire. Donc, est-ce que les choses sont en train de bouger? Est-ce que la pression est telle que les choses sont en train d'évoluer? Ce qui est important, c'est que les Français ne veulent pas qu'on diffame leur pays naturellement.
Et moi,
c'est un petit peu les réponses que je reçois de la part de la France. On dit, attends, parle de l'Italie, parle pour toi, ne viens pas, n'est pas chez nous.
Vous avez décrit la France, donc, dans la géographie de la cocaïne mondiale. Il y a deux lieux qu'on n'a pas encore cités. C'est la City de Londres et Wall Street. À vous lire, ce sont les deux endroits, les deux villes, les deux espaces où entre en contact le capitalisme débridé de la cocaïne et le capitalisme clean qui va avoir la charge de recycler, de blanchir l'argent.
Certamente sì.
Tout à fait, vous avez raison. En termes de consommation, concentrons-nous sur la consommation. Et d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse parce qu'il y avait une théorie un petit peu romantique. Alors, bon, je n'y crois pas, mais je l'ai quand même mentionnée. Théorie qui disait et qui voulait que la crise, finalement, est générée par cette attitude compulsive des traders, des compulsions qui est un petit peu due à la cocaïne. C'est intéressant, c'est romantique, sans plus.
Oui, bon, ils sniffent peut-être de la cocaïne, mais là, on va parler du blanchiment de l'argent.
Exact.
Ah bien oui, venons-en au fait du blanchiment, justement. Une étude de l'Université de Bogota en Colombie a prouvé que 96% de l'argent produit par la cocaïne américaine est blanchi par les États-Unis et l'Europe. Mais ce qui m'a permis de découvrir les preuves, ce ne sont pas les études, ce ne sont pas les recherches, parce que vous savez, ça fait des années que je me penche sur les recherches, que je trouve des indices, mais jamais de preuves. Et la preuve, en revanche,
il governo americano,
eh bien, c'est quand le gouvernement américain,
dalla concorrenza sleale,
terrorisé par cette concurrence déloyale du trafic de drogue,
a
commencé à mettre sous enquête les banques qui s'adonnaient au blanchiment.
À quel point tous les indices que j'avais.
Mes indices sont devenus preuves. J'ai pu les écrire. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une enquête au plus haut niveau.
Avant,
j'aurais tout simplement été condamné pour diffamation.
Et invece, oggi, ci sono le prove.
Aujourd'hui, almeno les preuves existent. En tout cas, en ce qui concerne certains groupes bancaires.
La Wachovia Bank.
Je pense à Wachovia Bank,
terza banca più grande
qui est quand même la troisième banque américaine. Je pense au groupe Wells Fargo,
qui
paie plus de 300 milliards
que per di multa
de, d'amende hein, pour recyclage pour blanchiment
un miliardo à HSBC di Londra
HSBC Londres un milliard amende pour blanchiment.
Est-ce que ces banques sont coupables de blanchiment ou coupables de négligence, Roberto Saviano? C'est pas la même chose.
Allora, la mia analisi.
Je vais vous livrer mon analyse dans un premier temps, et puis
la
je vais vous donner des éléments factuels et objectifs. Analyse, c'est qu'elles sont complices,
sono
résolument complices. Les montants
que
sont tels que les PDG de ces banques, les présidents, ne peuvent pas ne pas autoriser
quando
de telles transactions.
Scoperte,
et quand tout cela est découvert, quand le pot rose est découvert, eh bien eux affirment leur négligence.
Cioè,
ils se déclarent négligents.
Ils
se disent que finalement, ils ont confié à des cadres non fidèles ou peu fidèles ou peu regardants, négligents, la gestion de ces affaires.
Io credo che la negligenza quindi sia la strategia
la négligence est la voie de sortie. C'est une stratégie
complice.
De banques qui sont résolument complices.
Donc c'est une accusation claire et nette. Les deux capitalismes que vous décrivez dans ce livre, celui illégal de la drogue et celui ayant pignon sur rue à Wall Street et à la City de Londres, marchent main dans la main.
Absolument, oui.
Tout à fait. Tout à fait, main dans la main.
C'era stata anche una denuncia.
D'ailleurs, il y a eu un dirigeant de l'ONU, Antonio Maria Costa, a dénoncé ces faits. C'était en 2006. Il avait pu voir tous les flux de trésorerie effectués par les grands groupes bancaires. Il avait tout de suite observé qu'il s'agissait de transactions assez ambiguës, j'ai envie de dire. C'était pas du capital, c'était de l'espèce. C'était du cash. Et là, il avait mis le doigt sur la plaie en disant, regardez, que tous ces établissements bancaires qui sont en crise sont en train finalement de prêter le flanc et d'accueillir les liquidités du trafic de drogue. Alors, personne ne lui avait prêté la moindre oreille.
Et il mondo della finanza
et la sphère financière au cours de ces dernières années est parvenue à tirer profit du blanchiment. On a déplacé tout ça des territoires qui étaient des paradis fiscaux et on a déplacé tout ça à Londres. Donc aujourd'hui, tout le monde sait. Tout le monde sait qu'il est beaucoup plus intéressant de blanchir à Londres qu'aux îles Caïmans.
Quand, Roberto Saviano, vous vous penchez sur 2008, la crise des subprimes, les banques qui s'effondrent les unes derrière les autres, et cet énorme problème économique à ce moment-là, qui est la crise des liquidités. Les banques ne prêtent plus, les banques n'ont plus d'argent. Vous mettez cette crise de liquidité à côté de la masse de liquidité liée au trafic de cocaïne. Est-ce que, et vous dites d'ailleurs qu'une partie de la crise des liquidités a pu être réglée par les liquidités liées au marché de la cocaïne. Est-ce que là, vous ne faites pas le tour de roue de trop, comme on dit en France? Est-ce que vous n'exagérez pas un peu en pensant que le système économique mondial a pu se ressourcer et se retaper grâce à l'argent de la cocaïne?
Non, i dati sont abbastanza impressionnants.
Non, non, mais écoutez, les chiffres sont impressionnants. D'ailleurs, ce sont des chiffres qui ont été publiés par le gouvernement américain. Alors, attention, je ne dis pas que c'est la seule raison. Je ne dis pas que le blanchiment est la seule jambe sur laquelle repose le système. Non, je pense que c'est l'artère qui a véritablement permis d'insuffler, ou le poumon qui a permis d'insuffler le plus de liquidité. Et cela, si vous voulez, c'est prouvé par les États-Unis. La plus grande puissance du monde. Qu'ont fait les États-Unis? Le fameux Patriot Act, qui finalement ne s'appliquait qu'au terrorisme, s'applique maintenant au trafic de drogue. Donc, si vous voulez, ça, c'est un geste qui n'est pas dû à la bonté des États-Unis. Mais c'est tout simplement parce qu'ils ont compris alors que les banques européennes, mais également américaines, commençaient justement à mener une concurrence déloyale et qu'il y avait cette concurrence déloyale. Et c'est pour cette raison que les États-Unis ont, par exemple, incriminé, il y a une commission d'ailleurs d'enquête sur Swiss Bank, parce que Swiss Bank récupérait l'argent de personnes qui ne payaient pas leurs taxes aux États-Unis, les Américains, qui se livraient à l'évasion fiscale. Et quand ils se sont aperçus à l'issue de la crise de 2008, des subprimes, quand ils se sont aperçus de cela, ils se sont rendus compte que cette masse de liquidité allait être essentielle et déterminante, alors qu'elle ne l'était pas avant, puisque l'argent des cartels colombiens a toujours existé, cet argent a toujours été là, et personne ne s'y est jamais opposé, personne n'a jamais lutté contre cela, parce qu'il n'était pas déterminant à l'époque, avant la crise. Donc, si vous voulez, moi j'ai une certitude, qui me veut, que cet argent deviendra moins important, cet argent de la drogue deviendra moins important dans quelques temps. Vous savez, c'est un livre que je n'ai pu écrire qu'aujourd'hui.
Je vous pose ces questions et ce sera d'ailleurs ma dernière question, Roberto Saviano. Non pas pour essayer de sauver l'honneur des banques, moi je n'ai absolument aucun intérêt dans cette question-là. Mais c'est simplement pour éviter une théorie du complot qui permettrait de penser que tout le monde est pourri, que les narcotrafiquants et les gens qui travaillent au guichet d'une banque sont main dans la main. Ce que vous dites de la police américaine démontre qu'il y a bien force de loi à un moment.
Absolument.
Tout à fait, et là je vous donne entièrement raison. Si vous voulez, la grande bataille contre justement le capital du trafic de drogue, eh bien, ça a démarré un jeune homme, Martin Woods. Martin Woods s'est rendu compte que ça ne tournait pas rond. Lui croyait dans un système bancaire et financier démocratique. Et pour lui, c'était le seul système, le seul outil qui permettait de faire rayonner des idées, de diffuser des projet. Donc, il serait erroné de considérer tout d'un bloc que toutes les banques sont des associations mafieuses. Bien sûr que non. Vous savez, mon rêve, c'est de donner, de faire comprendre au lecteur que l'argent a une odeur. Mais l'argent n'est pas sale. Toutes les masses d'argent ne sont pas sales. Et qu'il y a des contradictions dans tout cela. Mais je pense qu'il faut être extrêmement prudent. Et il faut éviter toute forme de généralisation, naturellement, qui est dommageable.
Et pour éviter
de ne pas généraliser, eh bien, il faut connaître.
Merci Roberto Saviano, merci infiniment d'avoir été au micro de France Inter. Extra pur voyage dans l'économie de la cocaïne est publié chez Gallimard. Merci à Christine Favard d'avoir assuré la traduction simultanée. Et puis un conseil, faites attention à vous quand même. J'espère avoir le plaisir de vous recevoir à ce micro lorsque vous publierez votre prochain livre ou que l'un de vos films sera diffusé. Ça va bientôt être le cas sur les écrans de télévision française. À suivre, il est 18h30. Le Mexique avec Eric Valmire. Vous écoutez Un jour dans le monde, Mexican Institute of Sound, Mexico.
Un jour dans le monde, Nicolas Demorand sur France Inter.
va a pasar para que pueda mejorar. Todos somos víctimas de un estado confiscado con un gobierno involucrado en las ganancias del narco. Es una nación podrida con la población herida. México, 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 es México, México, ra, ra, ra. Es el Chapo, tus hijos ya son sicarios. Muérdete la lengua que hay 30 muertos en Veracruz. Es todo un placer y orgullo saber que el turno es tuyo, que quizás mañana ya no llegues vivo a tu casa. México, 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 es México. Rojo tu sangre, estado fallido, campeón, orgullosos patios traseros.
Mexican Institute of Sound, Mexico. On reste au Mexique avec vous, Eric Valmire. Bonsoir.
Bonsoir, Nicolas.
Il est 18h42, partout ailleurs, en forme de retour sur l'affaire de ces 43 étudiants disparus au Mexique. L'affaire met le pays en feu.
On est vraiment dans l'actualité du jour, car il y a eu des manifestations monstres encore aujourd'hui à Mexico. Iguala est dans l'état de Guerrero, dans le sud du Mexique, un fief de la drogue. On est sur la route du Pacifique entre les Andes et les États-Unis. Iguala a même une allure de carrefour. La drogue est stockée ici avant d'être acheminée vers la Californie ou Mexico. Donc, un lieu sensible pour les cartels de la drogue. Le 26 septembre dernier, les étudiants manifestent pacifiquement dans la rue contre la corruption et les autorités locales qui seraient de mèche avec les narcotrafiquants. La suite est racontée par Jean Rivelois, chercheur à l'Institut des hautes études de l'Amérique latine.
Les étudiants sont montés dans un bus. Et il y a eu une réponse totalement disproportionnée des forces de police qui ont tiré dans ce bus, qui ont tiré dans le bus d'une équipe de football qui était à côté. Il y a eu des balles perdues, il y a eu 6 morts. Une fois que la fusillade a été terminée, les policiers ont fait descendre les étudiants et ils les ont conduits dans des voitures. Et depuis, nous n'avons plus de nouvelles de ces étudiants.
Oui, et très vite, l'inquiétude s'empare des familles.
D'autant qu'une semaine plus tard, 2 individus arrêtés après une fusillade affirment avoir tué 17 des 43 étudiants. La police aurait arrêté le véhicule, le chef de la sécurité publique aurait remis des étudiants pris au hasard à une bande, les jeunes conduits sur une colline boisée pour y être assassinés. Le chef de la sécurité publique est d'ailleurs en fuite et le procureur Inaki Blanco de l'état de Guerrero ne peut que constater la découverte des corps.
À l'heure actuelle, le bureau du procureur confirme qu'au total, 28 corps ont été retrouvés. Certains complets, d'autres fragmentés. Tous présentaient des signes de calcination selon les experts. Nous sommes désormais en mesure de dire que la tombe découverte à Pueblo Viejo était située dans un espace boisé. Les victimes gisaient à terre et ont été recouvertes d'un liquide inflammable type diesel, gasoil ou pétrole.
Les examens ADN sont en cours.
Et un autre charnier, Eric, de 28 corps a aussi été découvert. Mais là, les premières analyses ne révèlent aucun lien avec l'affaire des étudiants disparus.
Mais ces découvertes macabres à répétition enflamment le pays. Encore aujourd'hui, une manifestation monstre dans les rues de Mexico. Les étudiants en colère refusent la résignation et la peur.
Nous voulons savoir où sont nos camarades, nous les voulons vivants, nous voulons des réponses. Car aujourd'hui au Mexique, en tant qu'étudiant, on est en danger. On est en danger parce que le gouvernement a peur des étudiants.
Nous manifestons pour que le gouvernement comprenne qu'on est tous unis et qu'il doit nous rendre nos 43 frères qui ont disparu. Il faut qu'ils reviennent et que justice soit faite.
Nous allons mettre en œuvre un grand mouvement dans l'état de Guerrero jusqu'à ce que l'on retrouve les 43 étudiants disparus. Et ensuite, nous mettrons le gouverneur en prison et tous ceux qui sont mêlés à cette affaire importantissime.
Un peu utopique peut-être, car il est difficile de croire au sentiment de justice quand l'appareil semble vérolé par les narcotrafiquants. Le gouvernement mexicain dit prendre cette affaire très au sérieux. Comment peut-il en être autrement après la vague d'émotions portée par cette affaire dans les familles de tout le Mexique? Qui plus est dans une affaire où des étudiants demandaient pacifiquement probité politique et équité sociale. Pour le journaliste franco-mexicain de RFI, Raphaël Moran, la tradition sociale de l'état du Guerrero a encouragé ces jeunes à descendre dans la rue.
Il y a une composante très spécifique au Guerrero, qui est marqué quand même depuis les années 60 par plusieurs mobilisations sociales. C'est-à-dire que dans le Guerrero, qui est un état extrêmement pauvre, on a vu émerger régulièrement depuis les années 60-70 des guérillas, des luttes sociales qui essayent de temps en temps de fracturer, de fissurer cet ordre politico-narco qui est main dans la main. Et quand ils essayent d'introduire un petit peu plus de justice sociale ou ne serait-ce que de revendiquer, c'est la répression féroce. Et c'est exactement ce qui s'est passé là.
Et l'ordre social d'Iguala est un ordre établi spécifique aux besoins de la région. Jean Rivelois.
L'ordre social s'opère de différentes manières. D'abord, par les autorités locales qui exercent une violence illégale contre tous les opposants, et ensuite à travers une sous-traitance de l'ordre à des bandes criminelles locales. Ce ne sont pas des cartels, mais le cartel leur délègue la gestion des affaires locales. Et le tort, si je puis dire, de ces étudiants a été d'avoir dérogé à la loi.
Aussi parce que la femme du maire appartient à une famille du narcotrafiquant, que l'intervention policière contre les étudiants était ordonnée parce que cette femme tenait un meeting à proximité et qu'elle ne voulait pas que son intervention soit perturbée par une manifestation. Madame et son mari de maire sont d'ailleurs en fuite, le chef de la sécurité publique aussi.
Et puis Eric, 14 policiers ont été interpellés, ils ont confirmé les déclarations des deux tueurs.
À savoir que les policiers avaient bien remis les étudiants entre les mains des Guerreros Unidos, la bande criminelle visée. La Commission nationale de sécurité a par ailleurs annoncé aujourd'hui la mort de Benjamin Mondragon, le chef des Guerreros Unidos, tué au cours d'une opération spéciale de la police. Au dire des forces de l'ordre, il se serait suicidé, préférant mourir plutôt que de se rendre. Les journalistes locaux affirment au contraire qu'il a été criblé de balles par les policiers dans une ambiance qui rappelle furieusement Scarface. Dommage, il représentait en tout cas une piste sérieuse dans l'enquête des 43 étudiants disparus.
Merci Eric Valmire. 18h48, direction le Mali.
Nicolas Demorand, Un jour dans le monde, sur France Inter.
Le Mali, où l'accaparement des terres est un véritable fléau contre lequel les autorités ont décidé enfin de lutter. Il faut dire que le phénomène est hors de contrôle. Des milliers de Maliens sont concernés, pas seulement dans les campagnes, mais dans tout le pays. Reportage de notre correspondant à Bamako, David Baché.
L'accaparement des terres frappe des milliers de personnes et concerne plus d'un million d'hectares au Mali, selon les associations de défense des victimes. La plupart du temps, ce sont des paysans qui se font exproprier de leurs champs, car ils ne possèdent aucun titre, sur des terres cultivées depuis des générations. Yacouba Koulibaly vient du village de Denso, dans le centre du Mali. Son cas remonte à 2011.
Mon problème, c'est le même problème que sept villages. Dans les sept villages, le préfet a sorti une décision sur nos terres coutumières pour les distribuer. Il y a des opérations de vente. Bien sûr que sur le terrain aujourd'hui, pour gagner de l'argent. Et aujourd'hui, les sept villages n'ont aucune terre dans la plaine.
En théorie, le Mali reconnaît les droits coutumiers des paysans sur leurs terres traditionnelles. En théorie seulement. Boubacar Diara habite dans la commune rurale de Baguineda, à une trentaine de kilomètres au sud de Bamako.
Ouais, notre problème remonte à 2009. Un riche a acheté nos champs. C'est le chef de village qui a vendu nos champs. On allait déclarer à la gendarmerie, aux mairies et aux la commandant. Jusqu'à présent, on n'a pas eu de résultats propres. On n'a pas quitté nos terres. officiellement, ça ne nous appartient plus. Mais jusqu'à présent, on cultive.
L'accaparement survient également en milieu urbain, lorsque des habitants se font chasser de leur maison. Parfois, plusieurs titres sont émis pour un même site, ce qui donne lieu à des trafics et à des reventes multiples. Parfois, le droit des propriétaires est tout simplement négligé par les autorités. Mamadou Diakité vient du quartier de Yirimadjo, en périphérie de Bamako.
Bon, depuis 2000, on nous a cassé notre terrain là-bas. Comme ils ont construit le stade pour que le football se fasse là-bas. Bon, ils ont dit qu'ils vont essayer de nous mettre sur une autre place. On est allé à Nyamakoro.
Un autre quartier de Bamako.
Bon, depuis qu'on est là-bas, on est allé là-bas jusqu'à maintenant. On est en train de chercher jusqu'à présent notre terrain. Ça n'a pas pu marcher.
Au début du mois, les victimes d'accaparement décident d'organiser une grande manifestation à Bamako. Mais au dernier moment, la manifestation est interdite. Un imposant dispositif policier entoure les manifestants qui n'ont d'autre choix que de se résigner. Dans la foulée de cette manifestation interdite, le gouvernement malien décide finalement de réagir. Plusieurs mesures d'urgence sont annoncées, à commencer par la suspension de l'attribution par l'État de titres fonciers, un gel programmé pour une durée de 6 mois. Sur le long terme, cette fois, les autorités annoncent la création d'un cadastre foncier national. Estimé à 45 millions d'euros, il doit être élaboré d'ici 2018 grâce au soutien financier des bailleurs de fonds internationaux. D'autres réformes sont programmées. Le ministre des Domaines de l'État, Hubert Tiémankoulibaly.
Pour garantir l'avenir agricole de notre pays, le ministère du Développement rural et notre ministère sont à l'œuvre afin que nous puissions avoir une loi foncière agricole.
Aucune échéance n'est donnée pour le vote de cette loi, que le ministre assure très avancée. Les associations de victimes d'accaparement des terres, elles, exigent qu'elles soient présentées à l'Assemblée nationale du Mali dès le mois prochain.
Voilà pour ce reportage à Bamako de David Baché, RFI pour France Inter. Bonsoir Dominique André.
Bonsoir Nicolas.
La Fabrique du Nouveau Monde aujourd'hui sur la 19e édition du Festival de la Plume Noire. De quoi s'agit-il ?
D'un salon littéraire rare mais à connaître. Alors pourquoi la plume noire ? Parce que l'encre est noire et parce que c'est un festival qui met en évidence des auteurs méconnus, souvent de la littérature noire. Il a été créé par Dominique Loubao, une femme active et passionnée. Précurseur certainement parce que cette juriste d'origine ivoirienne attire maintenant 50 000 visiteurs qui se déplacent chaque année à la Plume Noire avec l'envie de connaître tout simplement de nouveaux auteurs. Lutter contre les ghettos culturels est une priorité pour elle et même une mission car Dominique Loubao se bat pour mettre en lumière la diversité culturelle et au-delà aussi pour mettre en avant la créativité de son continent africain, continent ou sous encore ses racines familiales. En 2006, Dominique Loubao a lancé le prix Léopold de Senghor du premier roman francophone et francophile, ouvert à tous, c'est-à-dire à la littérature noire, mais aussi à toute la littérature francophone du monde entier. Nous l'avons rencontré aujourd'hui à la veille de ce salon et c'était la course pour elle.
Il y a pendant très longtemps, ça a été ça. Les malades, les gamins avec les mouches sur les yeux, et puis là en ce moment, Ebola. Mais l'Afrique a bougé, l'Afrique a vécu, l'Afrique a travaillé. Enfin, tous ces étudiants qui ont été aux États-Unis, en France et tout, sont repartis construire leur pays. Et aujourd'hui, on parle de l'Afrique comme le prochain continent économique. Parce que l'Asie s'est fait, l'Amérique latine s'est fait. Aujourd'hui, c'est le continent africain. Qu'on le veuille ou non, Ebola ou pas, l'Afrique aujourd'hui est dynamique. Sur place, donc il y a des jeunes qui sont très créatifs à tout niveau, culturellement, économiquement. Aujourd'hui, c'est la place où il faut être.
Est-ce que ça ressort dans les auteurs que vous présentez à ce 19e Salon du Livre, dans les jeunes auteurs africains ?
On n'a pas que des auteurs africains. On a à côté aussi, nous ce qu'on veut c'est le dialogue interculturel. Donc il y a une africaine, il y a une libanaise, il y a des français. On s'est dit, si vraiment on veut donner à l'Afrique la place que l'Afrique doit avoir, il faut que l'Afrique soit à même de pouvoir concourir, en tous les cas travailler ou collaborer ou concourir avec des gens du même niveau. Si l'Afrique n'est pas capable de le faire, ben c'est même pas la peine. Donc il n'y a pas de choix, on ne dit pas je prends une noix parce qu'il faut en prendre une. Moi pour moi mettre l'Afrique en valeur c'est ça. la mettre au même niveau que les autres et non pas lui mettre un quota en disant bon, on va mettre un petit quota d'Africains, quoi. Ça, par contre, ce serait pénalisant.
Vous êtes dans une autre démarche que celle d'une militante de la cause noire.
Je ne suis pas une militante de la cause noire, je suis une militante du dialogue interculturel et du monde d'aujourd'hui, c'est-à-dire le métissage. Bon, c'est galvaudé, hein, mais le mélange, le métissage, le dialogue, à tout niveau, oui, moi je suis plutôt militante de ce monde-là. Quand on est créatif, quand on est brillant, on est au même niveau que les autres, pourquoi s'enfermer dans un ghetto? C'est ça le monde d'aujourd'hui. Donc moi j'estime qu'il n'y a pas d'Afrique, bouge sur le continent africain, tant mieux, mais cette Afrique-là doit désormais, donc sud, remonter vers le nord, et non plus le nord vers le sud, elle doit remonter vers le nord et apporter sa différence, sa façon de travailler, sa sagesse légendaire. Voilà, pour moi c'est ça aujourd'hui, dialogue interculturel, sud, nord, nord, sud, voilà, un mélange des genres.
Un mélange des genres. Un mot, Dominique Rapide, du programme du festival.
Oui, alors demain et après-demain, ouverture au public et puis surtout l'attribution du prix Senghor en hommage au premier président de la République du Sénégal et premier Africain à être entré à l'Académie française. On connaît presque le nom du lauréat, mais on vous le donnera demain.
Merci Dominique André. Oui, on
respecte. Alors, non, écoutez Nicolas, soyons cyniques.
Quelle belle idée.
Pas du tout, du tout. Mais quoi? Il suffit de ne pas perdre pour gagner.
Quelle belle réalité.
L'édito d'Alain Frachon. Bonsoir Alain.
Bonsoir Nicolas.
Une crise chasse l'autre dans l'actualité. C'est pour ça qu'il est important de faire retour aujourd'hui à Hong Kong. Les manifestations s'essoufflent Alain, mais ce n'est pas encore fini.
Voilà, vous savez, la tension médiatique occidentale étant à peu près équivalente à celle d'un préado qui regarderait la télé équipé de 3 télécommandes, on a oublié ce fait tout simple. Apparu il y a 3 semaines, le mouvement des étudiants de Hong Kong pour la démocratie continue. Alors, ils sont plus des dizaines de milliers, parce que forcément, il y a eu un désintérêt du grand public. Mais enfin, ils sont encore plusieurs semaines. Ils ont résisté à tout. Aux assauts de la police, ils ont résisté aux voyous qu'on envoyait contre eux, ils ont résisté au nom de Pékin à toutes leurs revendications, au nom des autorités Hong Kong à toutes leurs revendications. Mais ils occupent toujours des rues du centre, des rues commerçantes, des rues aussi qui mènent aux bâtiments de l'administration. Il y a encore des camps de toile et des barricades de bambou et des bagarres toutes les nuits, avec la police. Alors, c'est un mouvement exemplaire de civilité. Il n'y a pas le moindre acte de vandalisme de leur part. La nuit dernière, plutôt la nuit de mardi à mercredi, a été une des plus violentes depuis le 28 septembre. Et qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, jeudi 15? Eh bien, le chef de l'exécutif de Hong Kong, le chef du gouvernement de Hong Kong, Si Long, a dit « Ok ». On va reprendre la négociation. On va pas reprendre, on va commencer la négociation. Je ne dirais pas qu'ils ont gagné. Quelles sont leurs revendications? Leurs revendications, on le sait, leur revendication de départ, c'est un changement du mode d'élection, précisément du chef de l'exécutif. Il veut que ce mode soit plus démocratique. Mais à vrai dire, il y a quelque chose d'autre derrière. Il y a une menace. Ils sentent que l'emprise de Pékin est de plus en plus forte sur la région autonome de Hong Kong, cette ancienne colonie britannique, qui a conservé l'état de droit, les libertés publiques, la liberté de la presse. Alors ces jeunes gens, ils ne sont pas nombreux, mais ils sont toujours là, ils n'ont pas perdu, ils se battent pour un état d'esprit qui est un mélange de respect de l'état de droit et de dynamisme à la chinoise. Ce n'est pas rien.
Coup de chapeau signé Alain Frachon. Merci Alain. Bonsoir Hélène Jouan.
Bonsoir Nicolas.
Le téléphone sonne dans une vingtaine de minutes ce soir.
Les ambiguïtés de la Turquie et du président Erdogan dans la lutte contre l'organisation État islamique. C'est à travers la ville symbole de Kobané qui subit aujourd'hui son 30e jour de combat face à l'offensive menée par les djihadistes que se mesure, se jauge ces ambiguïtés. La Turquie soutient la coalition, mais elle refuse d'aider les Kurdes de Kobané. Elle refuse d'ouvrir sa frontière pour laisser passer des renforts kurdes venus de Turquie. Mais en détournant les yeux du drame qui se joue, Erdogan ne prend-il pas le risque de déstabiliser son propre pays? Que peut faire la communauté internationale? J'attends vos questions au 01 45 24 7000 sur les réseaux sociaux, franceinter.fr, Facebook et sur Twitter, hashtag Telson.
Merci Hélène, rendez-vous à 19h20.